donc est philosophe, profession de philosophie, enfin, était professeur de philosophie jusqu'à l'année dernière à Paris 8.
Dieu merci, c'est fini.
C'est un ancien directeur de programme au Collège international de philosophie, lui aussi, de 2004 à 2010, et un ancien résident de l'Institut d'études avancées de Nantes, où Gabriella est en ce moment. Voilà, il enseigne régulièrement aussi à l'étranger, en particulier au Brésil, en Colombie et au Mexique. Il collabore régulièrement à des activités artistiques, littérature, musique, théâtre. Et son travail porte principalement sur les processus symboliques et se situe à la jonction de la philosophie du langage, de la philosophie politique et de la psychanalyse. Donc je laisse la place à Derrida.
Merci Hélène. Le problème c'est que j'ai perdu une prothèse.
Ah bon?
Bah oui.
Des lunettes?
Mes lunettes, mes petites lunettes pour lire. Non, ah, c'est pas celle-là, parce que j'en ai 36, vous savez. Ah. Il faut des prothèses adaptées pour toutes les situations. Et donc comme j'ai pris quelques notes, j'aimerais quand même m'appuyer sur les quelques notes. Comme j'avais, elles sont dans ce coin, puisque je les avais. Sur le nez il y a un instant. Bon, alors, écoutez, je vais néanmoins commencer. Et je vais commencer par vous dire que moi, je crois... C'est bon ? Non ?
Non, c'était les lunettes.
Non, les lunettes, non ? Bon. Je crois que nous sommes pris partis, que nous sommes prisonniers, d'ores et déjà... du transhumanisme et c'est, je ne sais pas si c'est irrémédiable, tout n'est peut-être pas joué, mais je crois qu'il y a beaucoup de risques à ce que cette perspective triomphe. C'est la première chose que je voulais poser. La seconde, c'est que je crois, ou je crains, que Nietzsche ait été un de ceux qui, dans la modernité, ont, c'est pas le premier, mais a donné une expression, une des premières expressions, à ce qui est devenu ensuite le transhumanisme. Il suffit de lire la fin de tous les chapitres du Zarathoustra pour... voir l'ascension vers la demande d'éternité de l'homme. Voilà, donc je m'inscrirai dans un registre un peu différent de celui de Jean-Claude Martin. Alors, si mes renseignements sont exacts, je peux peut-être me tromper, mais j'ai cru comprendre que nous étions dans une maison d'art. Je ne me trompe pas. Et que dans une maison d'art, il y a des artistes, il y a des œuvres, il y a des gens qui forment des artistes, il y a des gens qui viennent voir les œuvres de ces artistes. Et un artiste, c'est quelqu'un qui est au fait des formes, parce qu'il travaille sur des matières pour leur donner forme. On retrouve là de grandes catégories de la philosophie grecque et aristotélicienne, encore, la notion de hulé, matière, et de forme, morphée. Alors, l'artiste, donc, c'est celui qui donne forme à des matières. Et ce que je voudrais essayer de vous dire, c'est que parmi ces matières, il y a les êtres vivants. Et je vais essayer de vous dire que, contrairement à ce qu'on peut croire, quand on voit des êtres vivants avec des formes si différentes, si multiples, qu'on essaye de capter dans le dessin, dans la sculpture, dans la chorégraphie. On a vu par exemple comment Maxence ce matin captait quelque chose d'une humanité et d'une animalité. Comment elle donnait à voir ces formes animales et humaines. Eh bien, ce que je voulais essayer de vous dire, c'est qu'en dépit, ou peut-être en défi aussi, pourquoi pas, en dépit de la multiplicité de ces formes, tous les êtres vivants se ressemblent. Alors, je veux dire par là que, par exemple, le lichen, vous savez, le lichen, c'est cette espèce de mousse sèche qui est apparue il y a 500 millions d'années, à l'époque du Cambrien, hein, ce qui ne nous rajeunit pas beaucoup, c'est que le lichen ressemble à l'éléphant, que le brin d'herbe ressemble à une girafe, qu'une mouche ressemble à un singe bonobo, etc., etc. Pourquoi est-ce que je peux soutenir ce propos ? Eh bien, je peux soutenir ce propos parce que tous ces êtres vivants, qu'ils soient donc vivants au sens qu'ils participent soit du règne végétal, soit du règne animal, pas du règne minéral bien sûr, mais ce qui est vivant, tous ces êtres vivants procèdent d'une écriture naturelle. On n'a pas évoqué cette question depuis ce matin et je voudrais donc essayer de commencer mon propos par là. On sait en effet depuis 1953, c'est-à-dire depuis que Watson et Crick ont découvert une structure qui s'appelle, cette fameuse structure en double hélice, qui s'appelle l'ADN, que cet ADN est, procède, fonctionne avec une écriture qui est composée de quatre lettres qui codent l'ensemble des êtres vivants, qui codent l'ensemble des êtres vivants, du lichen à l'homme, en passant par l'éléphant, la girafe et tout le reste. Ces quatre lettres, ça correspond à ce qu'on appelle les quatre nucléotides, hein, la guanine, l'adénine, la thymine, la cytosine, que l'on trouve donc dans le code de tout être vivant, et qui permet de dire que sous ce rapport, sous le rapport de l'écriture qui forme, conditionne l'expression de ces êtres, tous les êtres vivants se ressemblent et nous avec. Alors, il est bien évident que la spécificité des êtres vivants, c'est de se situer dans un écosystème global où chacun occupe une place vis-à-vis de l'autre. Par exemple, on parlait des serpents tout à l'heure. Eh bien, certains sont spécialisés dans le fait de, d'attraper des mouches, des insectes, d'attraper des petits mammifères comme les rats, les souris, etc. Que les oiseaux sont spécialisés dans le fait d'attraper, par exemple, des vers de terre, ou d'être soit herbivore, soit carnivore, etc., etc. Chacun est finalisé pour occuper une place précise dans ce qu'on appelle l'écosystème global. Alors, c'est évidemment là où la question de l'homme se pose, parce que le malheureux n'est pas finalisé pour occuper telle place plutôt que telle autre, pour habiter dans les déserts brûlants du Sahara plutôt que dans l'Amazonie tropicale humide, plutôt qu'au pôle Nord, ou plutôt qu'ailleurs. Il peut habiter partout et nulle part, sur les arbres. Un jour, on le verra, il y en a certains déjà maintenant qui habitent, par exemple, dans une capsule qui tourne autour de la Terre. C'est pas fini, ils iront encore voir ailleurs, c'est sûr. On verra probablement des cités sous-marines. Donc cet être n'est pas finalisé pour occuper une place ici plutôt que là. Il peut être nulle part et partout. C'est ce qu'on appelle l'incroyable plasticité de l'être humain qui le différencie des autres animaux qui ne sont pas du tout, qui ne font pas preuve de la même plasticité. Alors, d'où vient cette, parmi le règne, donc les deux règnes du vivant, le végétal et l'animal, cette place particulière de l'homme? Eh bien, je reprendrai moi aussi ce dont Jean-Claude Martin a déjà parlé, c'est-à-dire le fameux texte de Platon, le Protagoras, où Platon rappelle, en évoquant les différentes hypothèses donc de l'apparition de l'homme, reprend un texte plus ancien de Hésiode sur la création des espèces mortelles. Voilà un grand mot, les espèces mortelles. Parce que les dieux qui commandent, donc, à certains d'entre eux, on va voir lesquels, la création des races mortelles, sont des immortels. C'est même la définition des dieux de l'Olympe. Or, ces dieux de l'Olympe, peut-être qu'ils s'emmerdent un petit peu là-haut, et donc, ils ont commandé à des dieux de seconde zone, les titans, qui étaient des dieux vaincus par la nouvelle génération des Olympiens, la fabrication des races mortelles. Et donc, par rapport à ce que Jean-Claude a apporté tout à l'heure, je lui signale qu'il a oublié un personnage très très important. C'est pas Prométhée qui crée ces races mortelles. C'est son frère, c'est Épiméthée. Et Épiméthée a un certain rapport avec Prométhée. C'est que Épiméthée, ses deux frères, parmi ses deux frères, il y en a un qui est étourdi, qui fait des conneries. Et puis il y en a un qui s'appelle Épiméthée. Et puis il y a un autre qui s'appelle Prométhée, qui est chargé de réparer les conneries du précédent. Alors, vous savez comment ça se passe, cet épisode de la création des races mortelles. Je vais représenter les choses un peu comme ça à la va-vite. Disons qu'il y a un grand sac des attributs. Voilà, il y a un grand sac des attributs, et c'est évidemment l'étourdi qui veut commencer à se lancer dans cette grande aventure. Et dans ce grand sac des attributs, donc, il y a ceux qui volent, ceux qui courent vite, beaucoup de vélocité, ceux qui sont gros, ceux qui sont petits, les éléphants, ceux qui sont petits, ceux qui nagent, ceux qui volent, ceux qui ont des griffes, ceux qui ont du venin, etc., etc. Et à chaque fois que se présente un être, il est doté par donc l'étourdi, par Épiméthée, d'une qualité, d'un attribut. Bon, ça dure longtemps, et arrive donc ce qui doit devenir l'homme. Et donc Épiméthée va chercher dans son grand sac, manque de bol, manque de peau, le sac est vide. Plus de place, plus rien, plus d'attributs à donner à l'homme, si bien que on ne sait pas, on peut le dire en termes sartriens, l'homme ne sait pas ce qu'il fout là. On ne lui a pas donné une place très précise, et c'est évidemment ceci que va essayer de réparer donc Prométhée. Et donc, dans cette réparation, il va aller voler aux dieux, puisque de toute façon, il a quelque chose à régler avec eux, aux Olympiens, quelque chose qui est de l'ordre de l'attribut des Olympiens, le feu sacré, le savoir, etc., etc. Et donc, on a ces animaux, qui sont des animaux nus, sans aucun attribut, c'est-à-dire sans poils, sans vélocité, sans poils pour se protéger des morsures de l'hiver, sans vélocité extraordinaire, etc., qui sont tous assemblés comme ça, et donc il faut qu'ils s'assemblent autour de quelque chose qui les réchauffe un peu, donc le feu, et en même temps le feu sacré. Le savoir, c'est-à-dire quelque chose qui va apparaître comme la technique. C'est la, le don prométhéen, donc fait aux hommes de la technique. Si on voulait être un peu plus complet, on s'apercevrait qu'il y a un autre don qui est fait à ces hommes, je pourrais dire, pour reprendre l'expression de Musine, ces hommes sans qualité. Il y a un autre don qui leur est fait, c'est la disposition au blabla, au langage. Apparemment, ça nous amuse toujours aujourd'hui, puisque ça fait 8 heures de suite, 12 heures, je ne sais pas, qu'on discute entre nous. Donc on est toujours pris là-dedans. On aime ça. On aime ça. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre, puisqu'on n'a pas de place dans ce putain d'écosystème pour se caser quelque part. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se raconte des histoires. Ça fait passer le temps. Et ça fait passer le temps et ça permet de résoudre imaginairement un certain nombre de problèmes. Le problème que ça permet de résoudre, c'est, disons, la faiblesse constitutive de l'homme. Je pense que Gabriela, dans son intervention, a évoqué quelque chose de cette toute impuissance native de l'être humain, donc avec laquelle il faut bien qu'il se débrouille, parce que s'il ne se débrouille pas avec ça, il disparaît tout simplement. Alors cette première formulation, je vois ceci comme une première formulation de ce dont Gabriela a parlé ce matin, à savoir la néothénie humaine. La néothénie humaine, ça a été repris, formulé, reformulé, etc. Fichte, Pic de la Mirandole, Fichte, Rousseau, Kant, Freud, Agamben récemment, et je me suis glissé dans cette liste de philosophes qui ont essayé de régler comme ils pouvaient ce problème de la débilité humaine, en disant qu'il fallait bien qu'il sait quand même quelque chose. Donc la technique, le langage, qui leur permet de faire face à des situations que s'ils n'avaient pas au moins ces deux attributs, ils auraient probablement disparu depuis longtemps. Alors, ça se formule maintenant donc ceci, après tous ces noms que j'ai évoqués, sous une forme beaucoup plus rigoureuse et beaucoup plus scientifique. Une des formulations scientifiques majeures, ça a été le nom du grand biologiste et anthropologue américain Stephen Jay Gould, dans un texte qui malheureusement n'est, à ma connaissance, toujours pas traduit en français, et qui s'appelle « Ontogeny et Phylogeny ». C'est peut-être le seul texte, peut-être le plus important de Gould, qui n'est pas traduit en français, encore qu'il reprend l'hypothèse de la néothénie humaine dans toute une série de grands textes. Alors, qu'est-ce que c'est que la néothénie humaine? C'est l'idée de la prématuration de l'homme à la naissance. Il arrive incomplet, il n'est pas complet. Alors, on peut donner facilement quelques preuves de cette prématuration. Donc, cloison cardiaque mal fermée à la naissance. Immaturité postnatale du système nerveux pyramidal. Ça veut dire que vous êtes complètement désordonné dans vos mouvements et que vous êtes incapable de la moindre coordination motrice. Et ça dure longtemps. Insuffisance des alvéoles pulmonaires. Vous avez remarqué que quand il y a un petit qui arrive dans le monde, un petit homme qui arrive dans le monde, la première chose qu'on fait, c'est qu'on lui tape dessus, comme ça, il crie, et c'est une façon d'accueillir les nouveaux venus, et ça lui ouvre, ce cri, des alvéoles pulmonaires. Sinon, il y resterait très probablement. Autre signe de néothénie, la boîte crânienne non fermée. Ça s'appelle la fontanelle. Alors ça, c'est grave, ça, franchement. Le plus bel organe, le cerveau, qui est mis dans un bocal mal fermé, il y a quand même une erreur quelque part au départ. absence de pouce postérieur au pied opposable. Ça vient du fait qu'on vient au monde trop tôt. Si, comme les singes avec lesquels on a 99 et quelque chose de patrimoine génétique en commun, si on avait le même type de maturation, qu'on arriverait comme eux avec des pouces postérieurs opposables aux pieds. Alors ça, c'est un évidemment gros désavantage, parce qu'on ne peut pas se pendre aux arbres, etc., et batifoler d'arbre en arbre, c'est embêtant. Mais on danse, c'est comme ça qu'on se rattrape. Cette absence de pouce postérieur est un grave défaut, mais vous savez, le défaut, Jean-Claire en a parlé tout à l'heure, ça se complète par des suppléments. J'ai parlé depuis le début de mon intervention de deux suppléments par rapport au défaut dans lequel se trouve cette espèce humaine. Donc, langage et technique. Et pardon. Le défaut et la compensation du défaut qui tient au pouce extérieur qui manque va se rattraper par la station dynamique debout. Si on avait un pouce extérieur, un pouce postérieur opposable, on ne pourrait pas avoir de station dynamique debout. Donc on se retrouve avec cette station dynamique debout, et du coup, je reprends l'histoire de la main. La main prend une nouvelle dimension, possibilité, c'est qu'elle est libérée par rapport à la prise, par rapport à l'appui dans la marche. Et du coup, la main devient un organe néoténique extrêmement intéressant, qui devient un organe néoténique à tout faire. Comme j'en ai plus besoin pour m'appuyer par terre, eh bien, je peux l'utiliser pour essayer de régler des tas de situations qui se présentent dans le monde par rapport à moi, être inachevé qui doit faire face à des situations difficiles dans ce monde. Je peux parer des coups, je peux essayer de bricoler des choses, de prendre quelque chose quand j'ai soif pour boire, etc., etc. Et même à la fin de l'évolution, ça permet même d'écrire sur des bouts de papier et de découvrir quelque chose qui a à voir avec l'écriture. Donc vous voyez, cette prématuration spécifique de l'homme à la naissance se déroule sur un temps qui va imprimer quelque chose d'important pour le développement de l'homme. C'est qu'il n'est pas autonome tout de suite et qu'il a besoin de 4, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans pour pouvoir essayer de se compléter. D'ailleurs, je crois que c'est pour ça que vous êtes ici ce soir. C'est parce que si vous étiez complètement autonome et complet, vous n'auriez pas besoin de vous emmerder ici à essayer de compléter un manque fondamental, tragique, qui nous caractérise tous. Ça commence par le maternage, et ça se termine par l'éducation, l'université, les formations, les choses qu'on se donne à voir, etc., etc. Donc nous ne sommes pas finis dès le début, mais ça nous donne la possibilité de nous finir tout au long de notre vie. Alors, je voudrais, puisque je n'ai pas beaucoup de temps, puisque je vais vous présenter après une pièce de théâtre que j'ai écrite, et donc je n'ai pas beaucoup de temps pour déployer ce que je veux dire, c'est, je voudrais essayer de vous montrer que cette toute impuissance caractérisant l'humanité, qui fait que de fait, l'homme, je dirais pas, n'a pas de nature, mais une nature incomplète. Et que cette nature incomplète, il doit essayer d'en supplémenter quelque chose par un ajout qui vient de la culture. Alors le premier ajout, c'était l'ajout en été un. Et puis ensuite, ça se développe dans les sociétés, et chaque société développe ses cultures qui permettent donc aux jeunes arrivants de se doter de ce supplément culturel pour essayer de faire sa route jusqu'à la prochaine fois, de développer lui-même des éléments de culture, etc., etc., etc. Alors, parmi l'ensemble des suppléments possibles, des suppléments culturels possibles, des compléments culturels possibles, j'ai donc déjà repéré deux choses. Ce qui tient à la discursivité et ce qui tient à l'activité prothétique. La discursivité, elle, on peut essayer d'en repérer deux grandes formations qui sont, d'une part, une discursivité qui permet la narration. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on se raconte des histoires et on aime ça. Et il y a une discursivité qui ne fonctionne pas dans la narration, mais qui fonctionne dans l'établissement de grammaire. On veut essayer de comprendre comment ça marche. Ça, c'est pas seulement du règne de l'oralité, c'est souvent du règne des grammaires qui peuvent s'écrire ou qui peuvent se fixer. Par exemple, quand l'homme joue de la musique, il utilise il ne fait pas que taper sur des instruments quelconques, il ne fait pas que gratter des boyaux étendus sur une branche. Il essaye de trouver dans l'organisation des sons une organisation interne. C'est-à-dire que, par exemple, il va trouver des éléments qui vont permettre de fixer des sons les uns par rapport aux autres. Ça s'appelle l'harmonie. Et donc, on pense maintenant qu'à peu près tous les peuples du monde repèrent un des éléments fondamentaux de l'harmonie, à savoir le rapport d'octave. Parce que donc le rapport d'octave, c'est donc ce que vous obtenez si vous tendez une corde, vous la pincez, vous appuyez au milieu, vous la pincez, et donc ce rapport 1/2 devient un rapport sonore, qui s'appelle un rapport d'octave. Je dis que c'est une grammaire, parce que c'est une première découverte sensible du rapport 1/2. C'est-à-dire, c'est une introduction à la pensée des nombres. C'est pas pour rien que de l'époque grecque jusqu'à la Renaissance, la musique était associée à la mathématique. C'est dans la mathématique même, avec les rapports harmoniques et avec les rapports rythmiques, que, évidemment, la musique rencontre le nombre. Alors, on n'a pas eu besoin de finaliser tout ça, il a suffi donc de bien tendre les cordes de boyaux pour que ça fonctionne pendant des millénaires, mais ça a été quand même une grammaire implicite découverte par l'humanité. Donc, dans le langage, deux grands types de régimes. Un régime qui permet de découvrir des grammaires et un régime qui permet de raconter des histoires. Alors là, on ne s'en prive pas. On ne s'en prive pas de raconter des histoires. Pourquoi ? Mais parce que raconter des histoires, c'est un remède à l'insuffisance humaine complètement incroyable. Moi, tout insuffisant que je sois, tout impuissant que je sois, tout débile que je sois, débile au sens de la faiblesse que je sois par rapport aux autres espèces, le très bas par rapport à tout le reste de la création, moi le très bas, je peux imaginer le très haut. C'est-à-dire, je peux imaginer des formes de la rédemption. Ce qui, de très bas, va me permettre d'imaginer la puissance, la toute-puissance. Toutes les sociétés du monde, quelles qu'elles soient, ont eu des pratiques de religion, où ces dieux étaient des esprits extérieurs, étaient le totem, par exemple, chez Freud, étaient les dieux grecs dans le polythéisme grec étaient le dieu des monothéismes à partir d'il y a à peu près deux millénaires. Et ça, c'est évidemment très très important, ces dieux. Parce que quelqu'un qui est doué du langage, l'homme étant doué de langage, ça lui permet de survivre dans ce monde. Tous les autres êtres sont finalisés, donc ils sont dans l'instant. Les êtres sont, tous les êtres vivants sont dans l'instant. L'homme, comme il n'est pas finalisé, n'est pas dans l'instant. Il rate l'instant parce qu'il ne sait pas ce qu'il faut faire. Je donne souvent l'exemple dans la prédation, disons, amoureuse, quand vous rencontrez, si c'est un homme, ou si c'est ce que vous voulez, un autre qui vous botte, qui vous plaît, qui vous branche, qui vous kiffe. Quel est le bon moment pour se déclarer ? Trop tôt et vous foutez tout par terre, trop tard elle est partie ailleurs. Bon, donc voilà, on ne sait pas quelle bonne décision prendre dans l'instant. Alors que l'animal, lui, est dans l'instant et il est souverain dans l'instant. Je me souviens par exemple d'un poème de Michaud qui parlait des secondes tigres. Qui a eu, il s'adressait aux hommes, aux néotènes, qui a eu, disait-il, parmi vous des secondes tigres, la toute puissance du tigre dans l'instant, qui a connu ça parmi les hommes? Ben non, c'est pas pour nous. Donc on se rattrape en revenant après coup sur l'affaire qu'on a ratée. Donc on l'a ratée parce que là, j'ai été trop tôt, trop vite, raté le truc, mais la prochaine fois je ferai mieux. Et donc on s'engage comme ça dans une autre temporalité qui n'est pas la temporalité de l'instant qui est propre aux êtres, aux animaux. Nous sommes, nous, dans une autre temporalité qui implique la grande temporalité. On est dans l'instant, on rate l'instant, mais on prévoit le coup d'après. Et le coup d'après, on revient sur ce qui est passé le coup d'avant. Donc on a un déploiement, on est dans le déploiement temporel. Alors ça, c'est très très bien, mais il y a un certain problème avec le déploiement temporel. C'est vous anticiper votre suite. Alors si vous n'êtes pas au courant, je vais vous la donner, la suite. C'est une bonne nouvelle que je vous annonce. Ça va finir. Bientôt. Ou on ne sait pas quand. Pire encore. On ne sait pas quand. Donc voilà, on a affaire avec la mort. On a affaire avec la mort. Alors, c'est pour ça qu'on raconte des histoires. C'est parce que, donc, on a affaire avec cette équation très embêtante, que je peux énoncer sous cette forme très ramassée. Les individus, dont moi, doivent mourir pour que l'espèce vive. Ben oui, puisque on est soumis à la division sexuée. Donc si on est soumis à la division sexuée, c'est comme ça. Il faut que je rencontre l'autre, que je prolonge cette farce humaine imbécile d'une génération, et puis après je peux mourir. Bon. Là, ce que je veux dire, c'est que le sexe et la mort sont complètement liés. Ça a été la grande découverte de toute la littérature érotique du XXe siècle, Bataille et un certain nombre d'autres, qui parlaient par exemple de la mort, de la petite mort, etc., dans l'expérience sexuelle. L'expérience sexuelle et donc le fait qui fait que vous rencontrez la mort. Donc c'est du sexe à mort. Sexe à mort. Donc, voilà donc l'équation qu'on a dû résoudre. Les individus doivent mourir pour que l'espèce vive. Alors, comme cette équation a toujours beaucoup contrarié le genre humain, apparemment, toutes les civilisations se sont employées, toutes les cultures, civilisations, se sont appliquées à essayer de la résoudre, cette terrible équation qui pèse sur chacun. Dans notre culture, disons la culture occidentale, il en est, mais ailleurs aussi, mais je ne veux considérer que la nôtre, il en est sorti un traitement que j'appellerais un traitement narratif et symbolique de cette question que les animaux ne connaissent pas, parce qu'ils sont, eux, tranquilles dans l'instant. Ils ne savent pas ce qui les attend, et tant mieux. Et donc, dans le nôtre, dans la nôtre de notre civilisation, nous avons traité cette question par un traitement donc narratif. Ça a produit des récits qui mobilisaient globalement la rhétorique du déni, pour s'adresser à ceux, tout le monde, que ces récits interpellaient en leur disant à peu près ceci: vous mourrez, mais quand même, Mais quand même, c'est pour ça qu'on est dans la rhétorique du déni. Vous savez, cette forme propositionnelle qui a été bien travaillée par Octave Manoni, le grand anthropologue et psychanalyste, c'est le déni. Le déni, c'est « je sais bien, mais quand même ». Je sais bien que je vais mourir, mais quand même. Et quand même quoi? Eh bien quand même, je vais revivre. Dans une autre vie, éternelle. Quand je serai mort, je vais revivre. Ouf! Ça va mieux. Ça, c'est pour les monothéismes. Mais bon, la Grèce ancienne, vous allez le voir dans le petit dialogue que j'ai fait, ont proposé à cet endroit la théorie de la métempsychose. Après la mort, les âmes sortent du corps et migrent vers un nouveau corps. Donc là encore, je meurs, mais quand même, la partie la plus importante de moi sort du corps, va voir ailleurs si elle y est quand elle meurt, n'est-ce pas? Et elle trouve qu'elle peut être ailleurs. Ça me rappelle quelque chose que j'ai entendu il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas? Donc, en gros, ça dit la chose suivante, c'est, bon, vous allez mourir, mais si vous vous conduisez bien dans votre vie, c'est-à-dire en suivant des préceptes, attention, c'est pas fait pour n'importe qui. Il faut quand même suivre un certain nombre de recommandations. Dans les monothéismes, ça s'appelle les 10 commandements, le décalogue, les 10 paroles, etc., etc. Donc vous, si vous conduisez bien dans cette vie mortelle, vous gagnerez la vie éternelle. Alors, ben, c'était un traitement narratif qui a parfaitement fonctionné pendant des milliers d'années. D'autant que personne, à ma connaissance, après sa mort, n'est revenu pour dire « Écoutez les gars, ça marche pas du tout, hein. Il n'y a rien du tout, c'est des balivernes. Il faut pas y croire, personne n'est revenu pour dire ça. » Donc, en gros, on y croyait. C'est seulement au commencement de la fin de la modernité que quelqu'un qui a écrit une pièce de théâtre, tu disais là pour faire ça, qui s'appelle la pièce de théâtre « En attendant Godot », est venu pour dire, pour écrire, il viendra plus, il viendra pas vous sauver. C'est fini. Avant, peut-être qu'il pouvait vous sauver, mais maintenant, après la Deuxième Guerre mondiale, démerdez-vous, il viendra plus vous sauver. Donc, plus de vie éternelle, plus rien. C'était un moment important, ça a fait date dans la littérature, hein, le moment Beckett. Au début, personne n'y a rien compris, mais bon, 15 ans plus tard, il a été quand même gratifié du prix Nobel, hein, pour cette découverte. Alors, ce que je voulais vous dire, et je vais peut-être terminer là-dessus, parce que je voulais vous présenter donc cette piécette, c'est que on ne se contente plus aujourd'hui de ce traitement narratif, on veut un traitement réel de la question. On ne veut plus un traitement idéal de la question. On veut un traitement réel. On ne veut plus un traitement narratif dans les histoires qu'on raconte, dans les représentations que l'on fait, dans les façons dont on peint des tableaux, dans la façon dont on construit des monuments qui s'appellent des temples, des églises, des synagogues, des mosquées, etc., qui sont toutes dédiées à la gloire du Très-Haut qui doit nous sauver pour nous emmener vers la vie éternelle. Tout ça, c'était des moments de l'art quand même extraordinairement importants. Eh bien, on n'y croit plus. On n'y croit plus globalement. Remarquez que ça rend tellement désespéré certains et qu'ils en rajoutent là-dessus. Et il n'y a pas trop à s'étonner que nous vivions une époque fondamentaliste, au sens où d'aucuns ne veulent absolument pas renoncer à cette croyance. Parce que pour eux, il n'y a que ça qui peut nous sauver. Vous leur retirez ça, il n'y a plus rien. Le monde n'a plus aucun sens. Si vous leur dites « ça ne marche pas », ils vont faire exploser la moitié de Paris. Hein. Bon. Et donc, ce que je veux dire, c'est que depuis quelque temps, il y a une promesse que nous allons échapper à ça. La promesse est très ancienne. Elle remonte très probablement à l'Antiquité grecque. Elle se déploie tout au long de l'histoire humaine. Elle passe très probablement par Nietzsche. Et elle donne aujourd'hui quelque chose qui dit « Il ne faut pas un traitement symbolique et narratif de cette question, il faut un traitement réel. » C'est-à-dire que la mort, c'est pas du tout une fatalité, c'est une maladie dont on va pouvoir vous guérir. Alors ça, évidemment, c'est une mutation considérable qui est contemporaine. J'ai essayé de le dire ce matin à la suite de l'intervention de Gabriela. De la mise à disposition de chacun de toute une série de techniques, de prothèses nouvelles. Ça, c'était des prothèses narratives. Le monothéisme et autres qui promettaient la vie éternelle. Mais maintenant, ce sont des prothèses réelles qui vont supplémenter votre corps, qui vont se greffer sur votre corps. Et donc, l'hypothèse que je fais, et je m'arrêterai là, c'est que l'ensemble des prothèses qui sont en train de se construire, dont on jouit par certains bouts, ça, le téléphone portable, le truc pour faire de la musique, des algorithmes multiples qui permettent de résoudre plein de questions, tout ça est en train de s'agencer en une, je dirais, super prothèse. C'est-à-dire qu'on est passé de la prothèse comme adjuvant à la défaillance constitutive de l'homme, à une nouvelle prothèse où toutes ces micro ou mini prothèses s'agencent pour s'interconnecter, tout est interconnecté maintenant, et que ça devienne une super prothèse dont nous serons les servants. Voilà l'hypothèse que je voulais vous soumettre. Et évidemment, ça signifie que les formes de la toute-puissance ont changé, puisque nous étions dans la toute-puissance narrative et avec les autres formes de représentation qui restaient dans le domaine idéal, dans le domaine esthétique, artistique, et nous entrons maintenant dans une toute-puissance qui permet, qui promet d'intervenir dans notre réel même, c'est-à-dire dans cette écriture par laquelle j'ai commencé, l'ADN, qui va réécrire ça autrement, pour nous rebricoler autrement. C'est-à-dire que il est très probable que l'humanité soit depuis longtemps lancée, à la suite de la souffrance et de l'humiliation originelle de s'être retrouvé comme celui qui était sans attribut, c'est-à-dire une toute impuissance, dans le rêve de toute puissance que ne cesse de faire l'humanité, donc qu'elle soit lancée maintenant dans la possibilité de réaliser cette toute-puissance en réintervenant par la culture, par les grammaires, sur l'écriture naturelle dont nous sommes l'expression et qui nous constitue. Donc la promesse, c'est une promesse de réécriture de l'écriture naturelle, par les écritures grammaires, scientifiques, technoscientifiques, que nous avons maintenant à notre disposition. Il est bien évident que si cela advenait, cela changerait considérablement notre rapport au monde. Nous n'aurions plus besoin de ces vieilles foutaises qui s'appellent l'amour, s'emmerder dans la rencontre impossible avec l'autre. Vous savez ce que Freud disait à ce propos-là ? Il disait « Celui qui nous libérera de la sexualité sera considéré comme un héros d'humanité. » Parce que celui qui nous libérera de la sexualité, c'est celui qui nous libérera de la mort aussi. C'est ça qui est en jeu. Celui qui nous libérera de la mort nous mettra dans la position de ne plus avoir peur de la mort. Et donc de ne plus avoir, être dans la situation de sublimer la peur de la mort par l'art. Donc nous serons libérés de tout ça. Et là, je vous assure que nous serons vraiment heureux. Merci.